Bonjour. Donc, nous sommes réunis pour parler de la revue numérique Angle Mort et de sa jumelle Blind Spot. Nous avons ici une partie de la rédaction, pas toute, mais une partie. Christophe Duché, qui est un de nos lecteurs. Moi-même, Sylvie Denis, qui fait aussi partie des lecteurs et chercheurs de nouvelles. Notre rédacteur en chef, même si je ne sais plus quel est le titre qu'il a réellement, Julien Vaquet, et bonjour. Un de nos traducteurs pour Blindspot, Edouard Gauvin. Donc on va essayer de faire un petit rappel de comment Angle Mort est né et pourquoi aussi elle est en format numérique. Ça, je pense que peut-être que Julien peut nous faire ça. Et peut-être aider de Christophe, qui faisait lui aussi partie de la chose depuis le début. Presque. Donc si tu as envie de commencer.
Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon, oui. Déjà, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui connaissent Angle Mort ou qui ne connaissent pas du tout Angle Mort?
Bien.
D'accord.
Ouais.
Alors.
Les deux.
C'est bien. Donc, Angle Mort, c'est une revue numérique qui a été fondée en 2010 par des gens comme Laurent Kessy, Sébastien Sevet, David Kefelec. Et toi, tu étais dans la... Tu prends un micro.
Je suis arrivé, c'était déjà commencé. Je suis arrivé, c'était dans l'équipe qui était déjà formée. J'ai dû arriver au bout de 6 mois, 8 mois ensuite.
Ah ouais, d'accord. Attends, j'ai pas entendu ce que t'as dit.
Il est arrivé au début. Voilà, existait depuis 6 ou 8 mois.
Et donc, la volonté initiale, en fait, des fondateurs de la revue Angle Mort, c'était de créer une revue numérique de science-fiction. Parce qu'il me semble qu'à l'époque aucune revue numérique de science-fiction existait, et c'était de publier des textes qui se veulent innovants, traduire des auteurs qui n'ont jamais été traduits dans la science-fiction. Et il y avait vraiment l'objet d'utiliser l'outil numérique comme méthode d'investigation, en fait, de publication. C'est ça? La première équipe a arrêté de travailler pour la revue Angle Mort, et du coup une nouvelle équipe s'est constituée.
Une nouvelle équipe s'est immédiatement précipitée à la rescousse.
C'est ça, en 2014 je crois. Et oui. Donc on a eu une période un peu obscure où il fallait retrouver des gens volontaires pour travailler avec nous. Et donc il y en a quelques-uns parmi vous. Et donc on a dû redéfinir un peu la ligne, quel était le projet de la revue et tout ça.
C'est bien, tu me fais ma transition. Ça.
Ouais.
On peut, je pense, effectivement, pour les gens qui ne sont pas abonnés ou qui ne connaissent pas la revue, je voulais juste rappeler quelques-uns des auteurs que la revue a publiés jusqu'à présent. On en est au numéro 12, qui va sortir... si tout va très bien la semaine prochaine. Donc des auteurs français que nous avons publiés, Laurent Clutzer, Olivier Paquet, Jean-Marc Agrati, Léo Henry, Jean-Claude Duniac, Stéphane Beauverger, et probablement plusieurs que j'oublie. Et parmi les auteurs anglo-saxons, Aliette de Baudard, Darin Gregory, Lavi Tidar, Sophia Samatar, Keith Johnson, William Gibson, Vandana Singh, voilà, donc des noms parfois pas nécessairement connus, mais prestigieux, et des noms à suivre. Et comme le disait Julien, la revue a se donne pour mission de publier de la science-fiction exigeante, de qualité, ce qui ne veut pas dire compliqué et prise de tête, mais qui veut dire qui s'intéresse à la science et à l'extrapolation et aux idées mise incarnée dans des textes que des gens auront plaisir à lire. Nous l'espérons en tout cas.
Alors, ce qu'on peut faire là déjà, c'est vous décrire. Là, on va publier un numéro, le numéro 12. Juste vous décrire le contenu de la revue. Donc, on a 4 nouvelles françaises et étrangères qu'on fait traduire, qui sont accessibles en ligne gratuitement sur notre site internet. On a un article scientifique maintenant. Alors, je vous expliquerai un peu après pourquoi. Pour les gens qui achètent le format numérique de la revue, il y a des contenus exclusifs et notamment les interviews avec chacun des auteurs. Là j'ai le flyer de la revue, je ne sais pas si vous en avez, mais
on les distribuera tout à l'heure.
Ouais. Voilà. Et donc voilà, on a fait le contenu. Après, on peut essayer de décrire la ligne éditoriale, mais c'est un peu compliqué parce qu'on est des gens dans le comité qui avons chacun des goûts très marqués et assez différents, ce qui fait que.
Mais on est capable de discuter. Donc, au total, on peut ne pas être d'accord. Et on peut défendre des points de vue, et jusqu'à présent, on a toujours réussi à avoir un consensus, et ça permet de publier. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de publier des textes qui couvrent un spectre, ce que je considère comme être un spectre très large de la littérature et la science-fiction. Je pense que quelqu'un comme Jean-Marc Agrati est excessivement différent de Vandana Singh, qu'il ne considère pas si on leur posait la question, qu'il ne considère pas la littérature ou la science-fiction de la même façon. Et je trouve intéressant qu'un média numérique propose ça à des lecteurs, sachant qu'on essaie toujours de trouver les meilleurs textes, bien entendu.
Si j'essaie de vous décrire, moi, ce que je recherche dans les textes que je lis, je pense que tu ne seras pas forcément d'accord, et toi non plus.
Pas toujours.
Mais donc, je peux quand même essayer. On peut essayer de débattre et de s'engueuler devant le public. Ça peut être marrant. Donc, moi, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est pas des textes de science-fiction avec des héros très forts qui vivent des aventures extraordinaires. Moi, c'est plutôt une science-fiction qui va s'intéresser à la vie quotidienne des personnages. Donc, une science-fiction qui est proche des personnages et qui va s'intéresser aux relations entre les personnages. Et qui a une... Il y a le souci de la vraisemblance, entre guillemets, quoi. Il y a un souci de rendre les situations crédibles. Je ne sais pas toi ce que tu en penses.
Je pense que je suis d'accord sur ce point-là. Il n'y a pas de problème. La nouvelle qu'on va publier de Shoemaker dans le prochain numéro rentre absolument dans ce genre de vision de la science-fiction, puisqu'il s'agit d'un androïde qui s'occupe d'une personne âgée dans une maison de retraite dans un futur proche. C'est un texte absolument magnifique et émouvant et qui explore justement une situation inédite. C'est le genre d'histoire que je cherchais à publier quand je m'occupais de chercher des textes pour la revue Cyberdream il y a 15 ans. Et comme j'ai pas beaucoup changé depuis, je reste la même personne et j'aime les mêmes textes.
Donc voilà, des fois on tombe d'accord, mais des fois on s'engueule sévèrement aussi.
Par exemple, moi je suis très ouvert, je lis aussi bien du fantastique, etc. Mais ce que je recherche, c'est un texte qui va me donner une claque dans la gueule, un coup de poing.
Il faut que tu parles plus proche du micro.
D'accord. Okay. Quelque chose qui percute. J'aime beaucoup ce genre de littérature, mais qui peut être aussi très humaine. Voilà. Merci.
Voilà. On s'intéresse aussi à des textes qui ont une dimension beaucoup plus scientifique. Là, dans le prochain numéro, on va avoir un texte d'un auteur qui s'appelle Raphaël Carter, une nouvelle qui se veut une sorte de pastiche d'un article de biologie, par exemple. Qui s'intéresse aux questions du genre et qui permet de, ben, je pense, d'introduire assez bien le débat pour ceux qui connaissent pas forcément les questions du genre, et en même temps d'apporter des choses pour ceux qui connaissent déjà.
Non. Accrochez-vous pour celle-là. C'est un ovni. C'est un ovni absolu. Je n'ai jamais. En plus, c'est un auteur. étonnant parce qu'il a, il a disparu, il a écrit un roman que j'ai bien l'intention de lire, j'ai pas encore eu le temps, et cette nouvelle, et il a disparu. Et donc, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et toutes les critiques que j'ai pu lire du roman disent qu'il est remarquable, et cette nouvelle l'est aussi. Mais elle prend la forme d'un article scientifique à un point qu'on pourrait presque s'y tromper. Et c'est le but. Mais ce n'est pas pour tous les lecteurs, à mon avis, mais elle vaut le coup, parce qu'on n'aura jamais l'équivalent. Donc c'était intéressant de la publier.
Et l'appel qu'on pourrait faire aussi, c'est que en lisant les textes qu'on reçoit en explorant la littérature anglo-saxonne, finalement on se rend compte que on reçoit très peu de textes d'auteurs français intéressants, et on est triste, et on aimerait bien trouver plus d'auteurs français à publier, d'autant plus que les traductions ça coûte cher.
Voilà, les traductions ça coûte cher. Donc, on aimerait vraiment recevoir des textes d'auteurs français. On en reçoit, mais pas assez, vraiment pas assez pour arriver à sélectionner des choses qui nous intéressent et qui sont du niveau qui nous ferait plaisir de publier. Donc, le message est lancé. On pourrait peut-être parler de la partie blind spot.
Oui, alors
parce qu'en fait Angle Mort s'est agrandi, si on peut dire.
Alors cette année, au mois de juin, on a lancé un magazine américain, une sorte de version américaine ou de petite sœur américaine de Angle Mort, qui s'appelle Blind Spot, dans laquelle notre but, c'est de faire connaître en fait la science-fiction française aux États-Unis. Et c'est assez marrant, on s'est rendu compte qu'en fait personne en France n'avait tenté l'aventure, et que c'est assez compliqué en fait, parce que les éditeurs américains ne lisent pas français, et donc il faut déjà traduire les textes pour les faire lire et les faire publier là-bas. Du coup, on s'est dit, on va essayer de créer un support où on peut s'occuper de ça, quoi, et faire valoir la science-fiction française aux États-Unis. Et faire en sorte de rééquilibrer un peu les échanges, parce que bon, la science-fiction américaine, elle est très traduite, elle est omniprésente en France, alors qu'elle est totalement inconnue. La science-fiction française est totalement inconnue aux États-Unis.
Il y a eu ponctuellement des textes, essentiellement des romans traduits depuis Jules Verne. Il y a eu du Michel Jury traduit, il y a du Verber, il y a eu d'autres auteurs qui m'échappent. Donc il y a toujours eu des efforts ponctuels de traduction du français vers l'anglais, mais c'est extrêmement difficile. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Américains ne fonctionnent pas de la même façon que chez nous. Les éditeurs ont l'habitude de travailler avec des agents, ce qui n'est pas le cas en France. La question n'est pas de savoir ce qui est mieux, ce qui est moins bien, c'est que c'est juste différent. Donc créer les contacts et les relations et faire connaître les textes est pas simple du tout. Mais on peut essayer.
Et donc pour ce magazine, nous avons fait appel à Edouard, qui est traducteur, et qui a travaillé avec nous pour le premier numéro donc de Blind Spot qu'on a sorti en juin. Parle-nous de toi.
Bonjour. En tant que traducteur, je suis le trou noir où disparaît tout l'argent d'Angle Mort, apparemment. Mais non, pour moi, c'est surtout l'opportunité de travailler, de collaborer avec Angle Mort. C'est surtout pour moi surtout comme c'est une initiative bilingue en quelque sorte, pour moi c'est l'occasion de travailler avec, de collaborer avec des gens avec, dont je partage les goûts, parce que moi en tant que traducteur, je me penche surtout sur le fantastique et la fiction dite spéculative aux États-Unis. Et en dépit des traductions un peu éparses que Sylvia a évoquées, je crois que la France n'a quasiment pas du tout de réputation pour la science-fiction depuis Le Bon Monsieur Verne ou peut-être La Planète des Singes. Oui. Il y a des titres qui restent un peu cultes comme Le Métal Hurlant ou enfin, les films de Genet, mais c'est surtout dans le domaine audiovisuel. Et donc pour la littérature, on ne pense pas vraiment on reste calé sur des notions assez désuètes de ce que la France peut offrir aux États-Unis. Et bon, les grandes catégories sont toujours la haute critique littéraire, style Derrida, ou le nouveau roman, ou la fiction un peu expérimentale, ou même de nos jours, l'autofiction, comme c'est ce que salue les critiques du mainstream. Et puis, à part ça, il y a les livres grand format sur la bouffe et le savoir-vivre. Et donc, rappelons-nous qu'il y a 15 ans, le polar scandinave n'était pas du tout une catégorie du marché du livre. Justement, je crois qu'il faut toujours tenir compte du fait que les réputations nationales peuvent changer. Ils ne sont pas gravés en marbre. Et donc, on essaie, en passant des textes dans des revues littéraires, parce que le milieu des revues aux États-Unis est beaucoup plus grand qu'en France, où elle est quasiment inexistante. Et aussi, à partir de ça, d'essayer d'intéresser des éditeurs. Et je crois qu'aux États-Unis, en ce moment, ce sont, même si le pourcentage des livres traduits par rapport aux livres produits chaque année reste extrêmement faible en comparaison avec les autres pays du monde. C'est-à-dire qu'en France, je crois qu'il s'agit presque de 40%, je crois. Mais aux États-Unis, c'est entre 3 et 5%. Donc, je crois que même dans ce cas-là, ce sont des petits éditeurs et pas les grandes maisons d'édition qui mènent la bataille qui savent vraiment parler au lectorat assez spécifique et assez ciblé. Et donc, moi, mon premier livre en prose, ma première traduction en prose aux États-Unis, parce que je fais pas mal de la BD aussi, mais c'est plutôt mon gagne-pain. Mais là, j'ai commencé avec un recueil de Georges Olivier Château-Renaud, tout en passant ses nouvelles dans des revues, justement. Et puis, depuis lors, j'ai eu le grand plaisir de traduire des auteurs assez divers dans le monde de SF et de la fantasy, tels que Lionel Davoust ou Laurent Casey, justement. Juste cette année, en janvier, j'ai réussi à introduire Brousselot en anglais, donc avec le syndrome du scaphandrier. Mais quand même, c'est un grand roman pour moi, mais ça date d'il y a 25 ans. Quoi. Donc, il y a du rattrapage à faire, je crois, aux États-Unis.
Oui, il y a du boulot.
On peut peut-être passer à un volet supplémentaire de la revue, qui est la partie scientifique. Peut-être que Julien est le plus habilité à en parler.
Alors, la partie scientifique... là, on travaille à la constitution d'un comité scientifique pour la revue Angle Mort et Blind Spot aussi. Un comité scientifique interdisciplinaire et international qui s'intéresse donc aux liens qui existent entre science et science-fiction. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment de repérer concrètement quel est l'effet de la science-fiction sur la science. Parce que c'est assez facile de dire, la science-fiction... mène la barque de la science de demain ou ce genre de choses, mais concrètement comment ça se passe, qui fait quoi, et donc on essaie de repérer des débats scientifiques, des chercheurs,
dans leur discipline, qui vont faire appel à des idées ou des concepts qui viennent de la science-fiction et qui vont les traduire de leur contexte fictionnel à un contexte scientifique. Là, on a quand même une équipe qui commence à s'agrandir, le travail commence à s'organiser, hein, pour repérer voilà, ce genre de chercheurs et publier des articles du coup, qui vont, si vous voulez, agrandir l'offre du magazine. Quoi. Pour l'instant, on a juste une petite ambition de publier un article scientifique par numéro.
Sachant qu'on publie 2 numéros par an pour le moment.
Pour le moment, on publie 2 numéros français par an et 2 numéros
oui,
blind spot.
Oui.
Donc 4 publications à l'année.
Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, donc le but ultime étant d'éventuellement faire opérer une jonction entre les nouvelles publiées et les articles scientifiques. Mais ça, c'est en cours.
Et mon grand rêve, mais je ne sais pas si ça a marché, ce serait de faire en sorte qu'en fait les écrivains de science-fiction puissent lire les papiers des scientifiques et que les scientifiques puissent lire les textes des écrivains de science-fiction et qu'ils partagent des intérêts de lecture ou d'écriture, peut-être qui créent des projets d'écriture ensemble. Voilà, ça c'est la grande idée du projet, mais ça va mettre du temps à mettre en place. Donc voilà.
Est-ce qu'on parle un peu plus du prochain numéro éventuellement?
On en a déjà pas mal parlé,
non?
On
a un petit peu. On a parlé que d'un texte. On a un texte de Shoemaker, qui est un auteur pas très connu, parce que c'est ses premiers. C'est ses premiers textes qui paraissent. Le texte était nominé pour le Nebula, ne l'a pas eu. Mais quand vous êtes au niveau d'être nominé pour le Nebula, tous les 4 ou 5 textes qui sont dans la shortlist sont excellents, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
Bon, après, il ne faut pas dire qu'on publie des textes parce qu'ils ont remporté des prix, ce n'est pas ça qui nous intéresse non plus.
Non, parce que si tout le monde ne l'avait pas aimé, on ne l'aurait pas publié, mais disons qu'il y a des indices sérieux d'intérêt à lire ces textes s'ils sont sur une liste. Sinon, pourquoi est-ce qu'il y aurait des prix?
Non, bien sûr. Je ne sais pas, peut-être que comme l'intérêt de cette table ronde aussi pour nous, c'est de rencontrer des lecteurs et des auteurs ou n'importe qui. Et je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait ouvrir la table et essayer de prendre des questions si
tout
vous
à
avez
fait,
des
oui,
questions.
Bien sûr. Est-ce que si quelqu'un... On a quelqu'un pour distribuer le micro? Non. On n'a personne. J'espère... Il marche.
Juste petite question très rapide, vu que vous avez dit que vous vouliez des textes, concrètement, combien de signes? Est-ce que c'est payé? À qui il faut les envoyer? Voilà.
Ouais, merci de poser la question. Combien de signes? Je ne sais plus combien c'est en nombre de signes, parce que je calcule en nombre de mots à cause de blind spot, puisqu'aux États-Unis on compte en mots.
On va dire jusqu'à 70 000, mais bon, on préfère des textes plutôt courts, plutôt entre 1000 et 30, moi je dirais 30-40 000 signes. Ça permet d'avoir plus de textes. Mais c'est jamais une indication, c'est pas un coup près le nombre de signes. L'intéressant c'est que le texte nous plaise. Après on se débrouillera pour faire le numéro.
Et oui, c'est payé. C'est payé, pas beaucoup, mais c'est payé. Le texte c'est 50 euros, 60 euros. Voilà, on a répondu.
Sinon tout est sur le site pour voir quoi envoyer, à qui, le format de manuscrit. C'est très simple, les formats de manuscrits, le plus simple possible. Simple et efficace, dépouillé. On n'a pas besoin de police de caractère, je ne sais pas quoi. On n'a pas besoin de tous ces machins-là. On a besoin de pouvoir lire et que ça soit, agréable. Et que ça ne fatigue pas nos pauvres yeux malheureux. Je crois que quelqu'un avait le micro, oui.
Oui, vous avez parlé donc de la version anglaise de votre magazine. Quels sont les ponts entre les deux? Est-ce que les nouvelles qui paraissent en français paraissent aussi en anglais? Enfin, comment ça fonctionne?
Alors en fait, ça dépend. ça dépend de la taille du texte, parce que les traductions sont assez chères, et comme on n'a pas beaucoup de budget, on va, pour Blind Spot, on va vraiment se concentrer sur des textes assez courts. Mais globalement, c'est assez indépendant, en fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout le même sommaire entre Blind Spot et Angle Mort. Il y a peut-être un texte ou deux qui sont les mêmes. Mais voilà, ça dépend du texte, de la relation avec l'auteur.
Ça fait pas très longtemps qu'on a commencé. En fait, on a démarré sur des textes qui avaient déjà des traductions, des choses comme ça, parce que ça commence. Donc il faut le temps que la machine se rôde un petit peu, qu'on discute avec les auteurs, qu'on sélectionne des textes. C'est du temps, quoi.
Ouais. Et après, l'enjeu aussi pour Blind Spot, c'est donc de présenter la SF française aux États-Unis, mais on ne se définit pas comme étant les représentants de la science-fiction française aux États-Unis, quoi. On a nos goûts particuliers, on a notre approche de la science-fiction, et donc on va sélectionner des textes qui nous plaisent et qu'on veut vraiment défendre dans Blind Spot. Donc ça aurait été une autre équipe qui aurait géré ça, le sommaire aurait sans doute été très différent aussi, quoi. Donc,
juste une question, on comprend votre souhait en fait de faire découvrir donc la science-fiction française.
Attends, tu peux parler plus fort,
on vous entend pas.
Excusez-moi. On comprend donc le souhait à travers Blind Spot de faire découvrir la science-fiction française aux États-Unis. Est-ce que du coup ça signifie que finalement tout ce qui a été écrit en France au XXe siècle n'a pas du tout influencé la SF américaine?
Alors je pense que ça c'est Edouard qui pourrait. Donc la question c'était, est-ce que les quelques textes de science-fiction française qui ont été publiés jusque-là aux États-Unis, est-ce qu'ils ont une influence ou pas du tout sur la science-fiction américaine? C'est ça la question?
Les grands classiques, oui. Enfin, pardon, je peux...
je crois que... En fait, on les reçoit en quelque sorte en écho. J'ai l'impression que personne de ma génération n'a vraiment lu Jules Verne, mais on a regardé les vulgarisations en dessin animé ou des choses comme ça. Et donc, je crois qu'il y a une influence, mais c'est filtré ou atténué ou... par contre, quand on prend quelqu'un comme Serge Brousselot ici, qui est manifestement influencé par le surréalisme n'a pas beaucoup d'influence surtout sur la science-fiction américaine. Je crois que... ça m'a fait vraiment... honte de parcourir l'espace libéré ici et de voir que même des livres quasiment épuisés en anglais sont parus en traduction ici. Ça a été toujours le cas. Ça a été le cas avec les romanciers noirs qui sont parus dans la série noire de Gallimard et qui n'ont jamais eu de réputation aux États-Unis. Mais quand même, je n'oserais pas tout à fait me prononcer sur le sujet et je veux surtout éviter de dire que c'est l'inverse, que la culture populaire américaine a surtout influencé la science-fiction française des cinq dernières décennies, mais je crois que c'était quand même un peu plus difficile d'échapper à l'influence de ça que pour les Américains d'être influencés par les parutions françaises. Par exemple, Michel Jury, il est traduit, mais par une presse quasiment sans distribution. Et donc, pour. Par contre, il a été traduit par quelqu'un, Maxime Jakubowski, qui est vraiment. C'est un écrivain qui est connu dans le milieu, mais quand même, ce n'est pas un texte qui a beaucoup touché des lecteurs. Je crois que même les. Même les succès ont eu un effet assez restreint.
Et est-ce que tu pourrais nous dire, toi qui connais bien à la fois la science-fiction américaine et française, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des approches, une conception très différente de la science-fiction en France et aux États-Unis ?
Bah, le stéréotype, c'est que... que le hard SF aux États-Unis, c'est vraiment les sciences, la physique, la chimie. Mais le hard SF continental, c'est plutôt les hard sciences humanitaires, les hard sciences sociaux.
On n'a pas beaucoup de scientifiques qui écrivent de la science-fiction.
Pour moi, ça m'a toujours surpris parce que, à la différence de toutes les conventions anglo-saxonnes, là, ici, aux Utopias, on trouve pas mal de scientifiques qui font des tables rondes. Et c'est une chose. Peut-être que l'absence de ça aux États-Unis nous permet de nous échapper complètement dans le space-op, je sais pas. Mais
ça tient, c'est une volonté des utopiales de faire converger les deux mondes et de les faire discuter. Et c'est un événement unique en France. Il y a pas d'équivalent. Il y en avait pas dans le passé et il y en a pas d'autres en France où on trouve ce type de programmation.
Et du coup, à part cette différence à Art Science, est-ce que tu dirais que, enfin. Aux États-Unis, il y a quand même deux catégories qui existent. Il y a science fiction et il y a speculative fiction. Est-ce que c'est très différent ? Est-ce que c'est juste nominatif ?
C'est plutôt nominatif. La speculative fiction inventé pour que les gens respectent la science fiction. Comme, comme le roman graphique au lieu de album BD. Oui. Donc,
speculative fiction, c'est un terme inventé dans les années 70. Parce qu'un certain nombre d'auteurs comme Harlan Ellison, Norman Spinrad ou Moorcock n'étaient pas contents de ce qu'ils lisaient et voulaient agrandir le champ de la science-fiction et y faire rentrer un certain nombre de entre guillemets techniques littéraires qu'on considérait comme celles de la littérature blanche. Donc l'expression speculative fiction, elle recouvre ça historiquement. Après, je ne sais pas ce qu'elle recouvre pour les gens de 15 ans maintenant. C'est autre chose.
Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui.
Bonjour. Vous nous avez dit, vous avez expliqué un peu comment vous fonctionnez, que tous les sous partent dans la traduction, donc que vous êtes une nouvelle équipe. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage comment est-ce que vous construisez la revue, comment est-ce que vous marchez, de quoi vous avez besoin à part des textes ?
Des sous, oui. Des abonnements. Allez sur le site.
Comment fonctionne, tu veux dire, l'organisation du travail ?
Oui, en fait, ici, on a un ensemble de personnes. On voit un traducteur, un représentant de la sélection des textes, etc. Qui est-ce qu'il y a derrière la revue ? Est-ce qu'il y a une association ? Est-ce qu'il y a un groupement d'auteurs, de traducteurs, comme ça ?
Non, on est une association et on travaille donc tous dedans. Et on est tous bénévoles.
Sans être payés, comme des pauvres malheureux.
Et donc, on a dans le comité à la fois des éditeurs, des traducteurs, des écrivains, des scientifiques maintenant avec le comité scientifique. Donc voilà, en gros c'est ça. Et puis on se rassemble tous via Internet et on lit les textes qu'on nous a soumis. Donc les soumissions, c'est par Internet.
Pour les Français. Et aussi pour les Anglais maintenant avec Blindspot, oui.
Ouais. Et donc on lit tout ça et puis après on s'engueule par email pour dire non, je veux celui-là, non, moi je veux celui-là. Puis après on tombe d'accord et puis après on publie le truc, quoi. Voilà, je crois que c'est ça. Ça répond ou pas du tout ?
Oui, oui.
Sachant qu'à la base, on est plus ou moins tous des gros lecteurs. Donc, tant qu'à faire de lire des quantités de textes, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, autant en faire profiter d'autres gens. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, que j'ai aimé faire avec Cyber Dreams, qui était de lire des textes, de les découvrir, etc. C'est un plaisir que c'est. Enfin, je veux dire, c'est un plaisir. C'est pas ce qui va payer les croquettes du chat, mais c'est pas grave.
Et je trouve que c'est d'autant plus important qu'il y a en fait très peu de supports de publication de nouvelles en France, à part Bifrost, Galaxy, quelques autres trucs numériques.
On dit confrère, pas truc.
Comment ?
On dit confrère, pas truc.
Oui, c'était pas médisant du tout.
Je plaisante.
Et donc voilà, on pense que c'est important de soutenir ce type d'activité.
Oui, moi je suis.
Et sans se placer, pardon, excuse-moi, je te coupe.
Non, c'est l'auteur qui parle et l'auteur qui écrit des nouvelles et qui persiste à écrire des nouvelles alors que c'est pas ce qui rapporte le plus. Mais qui, moi, je continue à penser que ce sont les nouvelles qui sont le cœur de la SF. Et ça, je n'en déborderai absolument jamais. C'est-à-dire que l'endroit où la science-fiction se fait, l'endroit où on expérimente, l'endroit où on trouve des nouvelles idées, des nouveaux auteurs, c'est la nouvelle. C'est le texte court, et c'est là où on a ce qui m'intéresse le plus de la science-fiction, c'est-à-dire des idées. Donc voilà, quoi.
Et voilà. Et après le truc. Donc je dis encore truc,
oui,
c'est pas de se poser en concurrence avec les supports qui existent déjà, mais plutôt en activité complémentaire en fait. Parce qu'on pense qu'il y a plein de choses qui sont écrites et qui méritent d'être publiées. Et donc voilà. Il y avait d'autres questions ?
Moi j'avais deux questions, une petite et une un peu plus longue. La première, c'est que vous arrivez à un moment. Qui coïncide à peu près avec la fin de fiction. Chez Mouton Électrique, il y avait la même démarche qui m'est rattachée à un magazine américain. Bien sûr, je sais que vous êtes en numérique, mais est-ce que dans un avenir plus ou moins lointain, il y aura quelque chose en papier ou jamais
Là, je pense qu'on n'est pas tous d'accord au sein de Angle Mort. Moi, personnellement, je fais du numérique parce que c'est pratique, c'est moins cher. Mais je ne suis pas un militant du numérique et j'aimerais bien fabriquer des livres, quoi. Mais ça, on ne pourra pas le faire maintenant parce qu'on n'a pas assez d'organisation et d'argent pour le faire. Et si on le fait, ce sera, à mon avis, en association avec un éditeur. Voilà. Après, tu parlais de fiction. On a des gens dans notre comité qui bossaient pour fiction. Quoi.
Oui, moi, toi.
Et moi.
Voilà.
Et alors, peut-être vous pouvez nous dire, est-ce que c'est différent en termes de ligne éditoriale ? Est-ce que ça a changé ?
La différence essentielle en ce qui concerne les textes anglo-saxons, c'est que fiction, on avait une source qui était The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Et justement, moi, j'étais frustré parce que je lisais un tas d'autres choses qui m'intéressaient, qui auraient été bien pour publication, mais qu'on ne pouvait pas publier dans fiction. Et c'est pour ça que j'ai approché Angle Mort et que j'avais proposé de lire pour eux. Et c'est comme ça que j'étais rentré à l'époque dans l'équipe. Voilà. Et en fait, oui, au départ, beaucoup de textes que j'avais proposés à Angle Mort, c'était des textes qui n'avaient pas pu arriver dans fiction. Voilà.
Merci beaucoup.
Non, je n'ai rien de spécial à ajouter. L'autre
question un peu plus large que je voulais vous poser, on parlait de la nouvelle SF, c'est un constat que je faisais encore là récemment. La nouvelle en France, c'est un peu, surtout dans le genre, c'est un peu un sinistre.
Fait 50 ans que c'est un sinistre, c'est pas grave.
Ouais, mais en fait, c'est un truc que je me demande et que c'est pour ça que je demande la question à tous les quatre. C'est pourquoi ? Qu'est-ce qui fait, selon vous, que les Français ils sont un peu hermétiques à ça, alors qu'aux États-Unis, il y a quand même une énorme production de nouvelles pour n'importe quel auteur.
Alors là, j'aurais du mal à répondre.
Je pense pas qu'il y ait de réponse claire.
Moi, j'en ai une. Ce sont les conditions socio-économiques, c'est-à-dire qu'on est aux États-Unis, ils sont plus nombreux. Donc, statistiquement, il y a plus d'auteurs. Statistiquement, il y a plus d'acheteurs. Donc, ça permet à certains médias d'exister et de payer les auteurs. Il y a un moment, quand on est jeune et enthousiaste, effectivement, on écrit des nouvelles pour des supports qui paient peu. Et puis, il y a un moment dans l'existence où le réel vous rattrape et où on est obligé de faire des choix. Sauf quelques allumés dans le genre qui font pas de choix. Mais bon, pour autant que je sache, on est vraiment pas nombreux. Non, hélas, la réponse, c'est moi, je dis que c'est le nerf de la guerre, hein. Il n'y a pas de... Un auteur, si... La question, le temps, c'est de l'argent, mais l'argent, c'est du temps. C'est-à-dire que si vous êtes payé pour écrire des textes, vous n'avez pas à consacrer du temps et de l'énergie à autre chose. Même des choses parfaitement respectables et que j'aime faire, par exemple, comme traduire. Mais si je dois traduire entre 6 et 8 heures par jour... pour payer mon loyer, il arrive un moment où j'ai plus l'énergie pour faire autre chose. Donc l'argent, c'est du temps, et le temps pour un écrivain, c'est ce qu'il et la liberté d'esprit, c'est ça qui lui permet d'exister et de faire ce qu'il aime faire. Donc abonnez-vous.
Oui, non, en fait, la culture de la nouvelle aux États-Unis, surtout la nouvelle soi-disant littéraire et pas genre, est surtout due au soutien universitaire, je crois. La moitié des revues littéraires aux États-Unis sont des revues universitaires qui sont liées à des programmes de masters en écriture créative, qui est une véritable industrie aux États-Unis. Et donc, même si on trouve à l'origine de la science-fiction un français comme Jules Verne, on trouve aussi un français à l'origine de la nouvelle aux États-Unis, de mots passants, justement. Mais je crois que c'est aussi en part la professionnalisation des écrivains de genre aux États-Unis, parce que il y a de plus en plus de... Le marché est déjà saturé pour les écrivains de nouvelles littéraires. C'est-à-dire qu'il y a déjà trop de masters en écriture créative. Les gens n'arrivent pas à se publier. Donc, ils se publient entre eux dans des revues qu'ils ont fondées eux-mêmes. Mais par contre, de plus en plus, les programmes d'écriture créative sont ouverts aux écrivains de genre. Et de plus en plus, il y a des ateliers d'écriture pour les écrivains de genre, comme Clarion ou comme Clarion West, Odyssey. Ben, et donc, ces ateliers-ci sont tous orientés vers les nouvelles. Et je dirais qu'en général, les revues science-fiction anglophones, ils vont... C'est un milieu un peu plus faible, surtout économiquement, au niveau économique par rapport au milieu des revues littéraires, mais je crois que la culture de la nouvelle aux États-Unis est surtout institutionnelle. Institutionnelle.
Oui, c'est vrai que du coup, ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi un marché de la science-fiction, quoi. Un marché de la nouvelle, là je suis fatigué. Et même en littérature générale, du coup, parce que en France, on dirait que publier des nouvelles, ça rapporte rien. Donc les auteurs ne sont pas incités à écrire des nouvelles, puisque même un recueil de nouvelles, ça.
Oui, on n'est plus à l'époque de Hemingway et Fitzgerald où l'on pouvait vivre de la nouvelle, mais il y a quand même des endroits où on peut les publier et il y aura des gens qui les lisent.
Okay, merci.
Vous parliez du dialogue que vous vouliez instaurer entre les scientifiques et les auteurs de science-fiction. Je trouve que c'est une idée excellente, en passant. Est-ce que vous avez réfléchi au problème de la vulgarisation ? Parce que souvent, les scientifiques et les chercheurs sont dans leur bulle. C'est pas toujours évident de comprendre ce sur quoi ils travaillent.
Alors, moi, la notion de vulgarisation, j'ai très peu réfléchi à ça. Donc, par contre, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de réfléchir en termes d'écriture. Qu'est-ce que c'est que l'écriture scientifique ? Parce que écrire un article scientifique, c'est une mise en récit d'une enquête scientifique. On doit rendre cohérent la réalité d'un travail de recherche qui est en fait assez chaotique et avec plein d'incertitudes. Donc, il y a une part de narration dans le travail scientifique, autant que dans l'écriture de fiction, en fait. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment des connaissances peuvent émerger déjà dans l'écriture de fiction, quel type de connaissances peuvent émerger, et quel type de connaissances émergent, du coup, d'un texte scientifique, et comment les deux peuvent discuter ensemble. Donc, je sais pas si ça répond vraiment à ta question. Du coup, moi, je dis pas que je veux faire de la vulgarisation scientifique. En plus, je trouve ça pas très beau comme mot. Et je trouve que, après, c'est juste mon avis, mais je suis pas du tout expert là-dessus. J'ai l'impression que quand on parle de vulgarisation, on présuppose que les gens sont trop bêtes pour comprendre un travail scientifique. Alors que je n'aurais pas cette idée derrière la tête. C'est plutôt une réflexion sur les formes d'écriture et qui écrit comment, comment on écrit de la science, comment on écrit de la science-fiction et quels sont les formats intermédiaires entre les deux en fait. Et qu'est-ce que c'est qu'écrire entre les deux quoi.
Je voulais rebondir sur la question du support. Si j'ai bien compris, certains d'entre vous ont travaillé sur des revues papier avant. Du coup, le fait d'être en numérique, est-ce que ça vous oblige pas quelque part à repenser ce qu'est une revue, autant en termes de conception, de ce qu'on y met comme contenu, parce qu'on n'est pas forcément limité à de la littérature. On peut ouvrir ça à de la musique, à toute autre forme, à tout autre type de média. Et aussi sur la question de la visibilité, comment on fait connaître sa revue? Avant, sur une revue papier, il fallait être en librairie. Aujourd'hui, vous êtes sur Internet, vous êtes noyé dans un contenu gigantesque, enfin illimité. Et comment est-ce qu'on arrive à se faire sa petite place ?
Ouais, ça, c'est des questions qu'on se pose. Autre que du texte, on a des idées, mais c'est pareil, il faut encore les moyens et l'organisation. Moi, je réfléchis beaucoup à faire des podcasts, par exemple, avec des acteurs qui pourraient lire les textes. Mais il faut payer les acteurs, il faut les enregistrer et tout ça, donc ça va prendre du temps.
Il faut que le webmaster s'occupe de faire ce qu'il y a à faire.
Et ce dont on n'a pas parlé aussi, c'est qu'on a une ligne artistique aussi, c'est que maintenant on fait des couvertures et on contacte des artistes pour nous faire des couvertures, comme là avec le flyer qui est ici, on vous le filera après. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de renouveler un peu l'image de la science-fiction, parce que souvent on se dit les bouquins de science-fiction avec des couvertures, des vaisseaux spatiaux et tout ça. Bon, nous, on a envie de changer un peu l'image de la science-fiction parce que c'est pas que ça. Et donc, du coup, on contacte des artistes qui ne sont pas déjà des illustrateurs et des artistes qui travaillent dans le milieu éditorial de science-fiction, mais des artistes qui sont dans le champ de l'art contemporain ou du street art, tout ce genre de choses, et qui font aussi des choses très intéressantes. Et on les contacte jamais, alors qu'en fait, certains sont très attachés à la science-fiction. On explore ça. Et c'est pareil, on essaie de faire ça de manière professionnelle. On paye les artistes quand ils nous font une couverture. Tu vois, on est une revue numérique, mais je fais de la diffusion en papier avec des flyers. Sur le site internet, on va faire une. On est en train de repenser le site internet pour mettre une galerie d'art. Je sais pas si ça répond à toutes les dimensions de ta question. Mais...
Pour aller un peu plus loin, enfin, c'est toujours la question du numérique contre le papier, mais. Quelle est la différence entre faire une revue papier et une revue numérique ? Est-ce que c'est logique de garder un rythme de publication une fois par an, tous les deux ans ? Parce que ça se comprend, quand on est sur du papier, on crée un bouquin, il a un début, il a une fin, il a un point d'entrée, il a un point de sortie. Un site internet, on le fait vivre. Quand vous dites que vous vendez une version payante de la revue, Vous la vendez sur quel format? Quels sont les vecteurs de distribution, ouais, etc.
Alors, le truc, c'est que donc on publie très peu de magazines parce que ça nous demande quand même beaucoup de temps. Et,
on a tous déjà des emplois du temps chargés à 32 heures par jour. Quoi.
Et surtout, on n'a pas les moyens de publier plus, quoi, pour l'instant. Mais donc les textes en fait sont diffusés, c'était le format initial déjà des fondateurs de la revue, c'était de comme on a 4 nouvelles par numéro, on en publie un par mois à la sortie du numéro, et comme ça tous les mois il y a de l'information qui vient, quoi. C'était ça le truc. T'avais quelque chose, toi, à ajouter dessus?
Oui, et pour avoir les interviews qu'ont fait les auteurs, il faut acheter le numéro, c'est ça?
Oui, il y a le contenu exclusif. Voilà. Alors, ah oui, tu parlais des formats. J'ai oublié de répondre. Les formats, donc, c'est PDF, EPUB et Kindle.
Et les plateformes de distribution?
Et c'est sur... Alors, Angle Mort est sur toutes les plateformes de distribution. Donc, on peut acheter le numéro sur le site internet avec PayPal. Sinon, on a un diffuseur numérique et du coup, on est vraiment sur toutes les plateformes, quoi.
Bonjour. Je peux ? C'est bon ? Je voulais revenir juste sur... Pardon. Je voulais revenir sur ce que vous aviez dit avant sur le fait que les nouvelles n'étaient pas très aimées en France et tout ça. Ouais. Moi, je pense aussi qu'il y a un désamour un peu général, parce que même en contemporain, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages de nouvelles, alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose de très standardisé. Enfin, c'est souvent les auteurs commencent par faire des nouvelles avant de passer au roman, alors que nous, on a plutôt tendance à aller directement aux nouvelles, aux romans et pas aux nouvelles. Mais vous, en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que comme vous êtes sur du numérique et vous avez plein d'auteurs, enfin, j'ai vu entre autres que vous travaillez avec Jean-Claude Dugnac ou des choses comme ça, qui sont très portés sur le numérique, ben, c'est peut-être une façon de remettre la nouvelle un peu aussi en avant, la SF en avant, et ce format-là en particulier. Et du coup, je me demandais si vous aviez prévu une campagne de communication particulière pour essayer de répandre la bonne parole, en fait, dans le monde, quoi.
On y réfléchit.
Bah, on est en train de répondre, là. Hein.
Qu'est-ce que tu entends par campagne de communication dans le monde?
Mais par exemple, on voit les éditeurs, actuellement peut-être plus de manières de communiquer. On voit qu'aujourd'hui, avant, par exemple, quand un auteur publiait un roman, il suffisait qu'il passe à la télé dans une émission populaire et tout le monde savait qu'il avait publié un roman. Maintenant, les auteurs, ils sont obligés de parcourir un peu tous les salons, de faire un peu leur propre publicité. Enfin, c'est de plus en plus commun de voir ça. Mais pour vous, c'est plus difficile parce que vos auteurs, forcément, s'ils sont à l'étranger, ils peuvent pas forcément se déplacer sur tous les salons français comme ça. Mais il y a Internet, il y a YouTube, il y a plein de médias que vous pourriez utiliser. Est-ce que vous avez pensé à utiliser ces médias-là aussi, quoi ?
Là, on est présent sur tous les réseaux sociaux. Enfin, tous les réseaux. On est sur Facebook, Twitter, Instagram. Faire des vidéos sur YouTube, pour l'instant... si tu veux en faire, viens.
Oui, voilà, c'est ça.
Bah, moi j'en fais. Mais par exemple, je pensais à ce que tu disais tout à l'heure de payer des acteurs. Il y a plein de maisons d'édition qui font des teasers, des romans sur Internet et qui mettent sur YouTube. Ça, vous pourriez le faire, par exemple, pour les recueils, pour vos recueils, pour vos revues. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire aussi et qui donne une visibilité, enfin plus entre guillemets visuelle, en plus du numérique, quoi. Comme il n'y a pas de format papier après. Qu'on peut toucher ou ce genre de choses, quoi.
Ouais, ça, on n'a pas, trop réfléchi à ça encore. Mais merci beaucoup.
Ah bah, je t'en prie, vous en prie.
Une dernière question, peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il nous reste 2 minutes.
Alors, c'est pas vraiment une question en fait, mais hier il y avait la conférence, ou ce matin, je sais plus d'où je vis, du Bélial pour ses 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait quelqu'un d'autre aussi qui est arrivé avec une revue qu'il avait tirée à 2000 exemplaires, hyper enthousiaste. Tu te sens pas un peu comme le nouveau Olivier Girard, un peu, à essayer de faire comme ça une revue, de monter de rien et puis d'espérer que ça prenne? En espérant que tu aies le même succès.
On verra.
Je te le souhaite en tout cas.
Merci beaucoup.
Ben, merci à vous d'être venus et d'avoir participé et tout ça.
Et on vous distribue les flyers si vous voulez. Merci à tous.